Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation. Pour introduire un petit peu cette table ronde, je vais expliquer le contexte du jardin moderne et de notre plongée dans le grand monde des logiciels libres via le studio d'enregistrement qui a réouvert en 2015, donc depuis 3 ans. Et le choix a été fait par l'association de le munir d'un Linux qui est de faire l'enregistrement multipiste sur Ardour. Donc comme je disais, on a plongé un peu dans ce grand bain là et sans trop savoir où on allait, malgré qu'on a été aidé évidemment par des personnes qui nous ont aidé à mettre ça en place et puis qu'on a pu avoir le support de différents forums ou autres, mais voilà, c'était quelque chose qui était nouveau pour nous. Par la suite de ça, des groupes ont enregistré, parce que c'est le principe de ce studio, c'est un studio pédagogique qui est destiné aux adhérents du jardin moderne. Et pareil, forcément, des questions qui sont arrivées, logiciel libre, est-ce que ça marche aussi bien que le reste, comment les prendre en main. Dans le même temps, on pensait que des techniciens locaux, des compositeurs ou autres, allaient être intéressés par cet outil qu'est le studio Jardin Moderne équipé en libre. Il s'est avéré que ça a été un peu plus compliqué qu'on pensait aussi, une formation sur Ardour qu'on avait voulu mettre en place et qui n'a pas reçu autant d'inscriptions qu'on aurait voulu. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même toute une réflexion qui est déjà menée par beaucoup, mais que nous on voulait mener ici aussi au Jardin Moderne. Et on a profité du Festival des Libertés Numériques pour inscrire cette table ronde autour du thème de la musique et des logiciels libres, mais du point de vue des usagers, avec comme question initiale comment développer les usages. En fait, c'est l'idée du moment n'est pas forcément de discuter technique ou autre, mais vraiment de discuter de comment développer les usages autour de ces logiciels libres en musique. Et c'est pour ça que parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus expérimentés que le Jardin Moderne, qui font des ateliers depuis longtemps autour du sujet, et on est très content de pouvoir vous accueillir, enfin, que ce soit ceux qui ont déjà de l'expérience ou évidemment ceux que j'ai pu avoir par mail qui me disaient qu'ils n'avaient pas forcément d'expérience. C'est aussi important d'avoir des gens non expérimentés justement pour pouvoir discuter de tout ça. Le format comme on est, c'est vraiment, il n'y a pas d'animation particulière, c'est l'idée, c'est que tout le monde puisse prendre la parole de façon équitable et spontanée. Si jamais on sent qu'il commence à y avoir un petit peu trop de bruit ou que c'est difficile de s'entendre, on a des micros, mais là l'idée c'était au début de commencer sans. Je propose qu'on commence par un rapide tour de table pour ceux qui veulent, et peut-être du coup vous présenter ce que vous voulez évidemment, mais si jamais vous avez déjà une petite idée de ce que vous attendiez en venant ici, ça peut être intéressant pour l'assemblée d'avoir une première introduction comme ça. Je m'appelle Simon et je suis salarié du Jardin Moderne au Centre Ressources et au studio d'enregistrement pédagogique du Jardin Moderne.
Bon, moi c'est Guillaume, je suis aussi salarié du Jardin Moderne, je suis directeur de l'association. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je voulais rajouter au propos de Simon le fait que on est allé vers les logiciels libres parce que dans l'équipe, il y avait quelques personnes qui avaient un usage suffisamment approfondi de l'ordinateur pour savoir que il y avait autre chose que Microsoft et Apple, et qui avait envie de dépasser le truc. Et donc c'est d'abord des personnes qui chez eux sont passées sous Ubuntu par exemple, des personnes qui chez elles sont passées sous Ubuntu et qui se sont dit tiens, est-ce que là où je travaille on pourrait faire la même chose. Et pour compléter le propos de Simon, en fait c'est pas seulement le studio d'enregistrement qui fonctionne en Linux et Ardour exclusivement, faut quand même le dire. C'est aussi tout toute la bureautique, parce qu'on le jardin moderne, c'est 13 salariés, et donc, entre autres, hein, il y a aussi beaucoup d'adhérents. Donc il y a de la bureautique, il y a de la compta, il y a beaucoup de mails, beaucoup d'internet, et donc l'ensemble de l'équipe est sur Ubuntu aujourd'hui, donc comment dire, un système imparfait aux yeux de certains, mais quand même, ça veut dire qu'il faut Florian qui fait la com abandonner les Photoshop, les Illustrator et compagnie. Ça veut dire que l'ensemble de l'équipe a abandonné les Microsoft Word, les Excel, etc. Et c'est à la fois pas très compliqué et à la fois dans la vie d'une petite entreprise, je dis entreprise sous forme associative, à but non lucratif, mais quand même, c'est une petite entreprise. Quand il faut faire fonctionner un copieur en réseau avec Ubuntu, c'est quand même beaucoup plus chiant. Donc on en a chié parce que personne dans l'association n'est informaticien de métier, personne ne sait coder. Et je vous reparlerai des intentions de l'association après par rapport à tout ça. Pourquoi on fait ça en fait.
Ouais. Je m'appelle Jean-Emmanuel, je fais partie de la MND, c'est une association basée à côté du Mans, qui regroupe des groupes qui font essentiellement de l'art libre et on utilise des logiciels libres pour toutes nos productions, pour les albums, les clips, les sites web. Je développe un logiciel libre qui s'appelle Open Stage Control, j'ai été payé pendant un moment par l'association pour le faire, et maintenant je joue essentiellement dans un groupe qui s'appelle Plagia, avec mon acolyte Aurélien. En 2015, on a installé le studio du jardin moderne à l'Ordomne.
Bah, du coup, je suis Aurélien et pareil, quoi.
J'aurais dû me mettre à ça.
Moi, c'est Basile, je bidouille des trucs avec Arduino et des capteurs différents pour faire des sons avec des mouvements simples. Je sais pas si ça vous parle.
C'est quoi, c'est des installs C'est des installations que tu fais, des trucs comme ça?
Ouais, petits trucs, ouais.
Moi, François, je suis étudiant en sciences de l'éducation, et notamment dans un truc qui s'appelle TEF, Technologie pour l'éducation et la formation. Et du coup, je travaille pas mal autour des questions des usages numériques, et aussi notamment au CMA, où je suis adhérent, tout ça. Et en l'occurrence, je suis en stage depuis un an et demi au Jardin Moderne. Je travaille sur toutes les formations. Et je prends des notes ce soir pour faire un compte-rendu de la réunion, de la table ronde qui sera sûrement envoyé par la suite.
Ah oui, par rapport à ça, comme pour l'enregistrement audio, est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie, on va vous envoyer le compte-rendu, mais qu'on mette les mails en public pour que tout le monde puisse avoir les mails de chacun et éventuellement rediscuter derrière si jamais ça dérange les gens, mais sinon je mettrai tout le monde en copie bien non cachée, ça vous va tout le monde?
Ouais. Moi, oui. Ouais. Carrément.
Okay. Non, je demande pas parce que ça.
Surtout, il sera même.
Ok.
Je suis Michael, moi, je suis un peu dans le pingouin, j'ai commencé en 98. Je faisais un peu de MAO vers donc, pour être début 2000, mais franchement, c'était pas ça. Mmh. Je suis resté sous Windows, j'ai arrêté la MAO, mais continuant. Enfin, je suis resté sous Windows pour la MAO, j'ai arrêté la MAO. J'ai continué du Linux en usage courant, un peu prosélyte, mais je me suis calmé là-dessus. Et du coup, j'ai remis le pied dedans il y a quelques mois et ça a bien progressé. Donc, quand j'ai vu cette réunion, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les gens en font et le pic qu'ils ont là-dessus. Ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a un événement là-dessus. Ensemble, ça.
Moi, c'est Arthur. Je suis venu surtout parce que ça fait plaisir ce genre d'événement, effectivement. Et aussi parce que en ce moment, lui, il est du son et j'aimerais utiliser le synthé open source Helm, et peut-être avec Ardour. Donc, justement, je me pose des questions en ce moment et je vais voir si je vais trouver des réponses ce soir. Mm-hmm. Sinon, je peux me débrouiller tout seul.
Moi, c'est Pierre, je suis étudiant à Rennes 2 en histoire. Je viens très très régulièrement au Jardin Moderne, que ce soit pour des concerts, pour des répètes, pour l'association dans laquelle je suis rentré il n'y a pas longtemps aussi. Et j'ai utilisé le studio il n'y a pas si longtemps avec un de mes groupes. Et c'est en discutant avec Simon que je me suis demandé en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot de logiciel libre. Et comme j'y connais absolument rien, je me dis ce soir c'est l'occasion de m'ouvrir un petit peu à ces mots qui me sont totalement étrangers. C'est simplement de la curiosité.
Moi c'est Baptiste, je suis développeur informatique. J'ai essayé de mettre le pied dans la MAO sous Ubuntu aussi, avec Ozone Garden, enfin tous les logiciels à l'époque qui étaient assez répandus en MAO libre, ce que j'ai pas réussi vraiment, enfin c'était très difficile d'accès. J'ai récupéré un Mac depuis, donc je suis passé sous Mac. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de voir l'évolution aussi, parce que ça peut faire 8-10 ans que j'ai pas touché à Ubuntu et fait de la MAO là-dessous. Donc voir comment ça évoluait, si c'est arrivé au niveau, si on peut produire la même chose sous Ubuntu, sous Mac ou Windows, parce qu'à l'époque c'était pas le cas. Il n'y avait que des sons MIDI dégueulasses, et enfin, c'était très très compliqué de produire du son sous Ubuntu, mais c'était que par curiosité aussi. Je pense qu'il y en a qui se connaissent beaucoup mieux que moi et qui pourront me montrer un peu comment ça évolue.
Après, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont débutantes ou qui ne connaissent pas pour pouvoir avoir aussi leur point de vue.
Ouais, vas-y, ouais, sur ce côté-là.
Comme ça, on est moins consanguin, ça fait du bien.
C'est pas ça que je voulais dire.
Alors, moi, c'est Mathias. Je suis adhérent au Jardin Moderne. Je suis informaticien aussi. J'ai plus l'habitude d'enregistrer, sous Windows avec Reaper. Sans qu'il y ait un portage Linux de ça. Et ouais, je vais plutôt par curiosité de voir. C'est des moyens d'utiliser des logiciels comme Arduino. Pas Audacity, parce que c'est vraiment c'est assez limité de ce que j'ai utilisé.
Bonsoir, moi c'est Fred. Donc je suis venu avec Florence et on forme un petit groupe musical. Et puis on est un peu novice en la matière, mais on compose et puis on cherche à enregistrer. Donc j'ai joué un peu l'apprenti sorcier, j'ai fait ça sous Windows avec Audacity, avec plein de choses. Et puis ça n'a pas donné des choses extraordinaires, donc je suis venu un peu gagner en compétences ici pour un peu, et puis éventuellement découvrir un peu jardin moderne, voilà, dans ce sens.
Florence, un peu pareil, donc j'y connais rien, il y a longtemps je faisais un peu effectivement de l'enregistrement et des choses comme ça, dans les années 90, donc c'était pas avec des logiciels libres, et là je me remets un peu à la musique, donc effectivement on peut enregistrer tout ça.
Bonsoir, donc moi c'est Florian, je suis salarié au Jardin Moderne, je m'occupe de la communication. Je suis totalement novice en MAO, mais cette rencontre m'intéresse particulièrement, étant donné que j'utilise à titre personnel et professionnel des logiciels de PAO libres, autant Scribus, GIMP que Inkscape, et cette notion de développement des usages, en tout cas, m'intéresse, hein, histoire de faire un parallèle. Et j'avais aussi une question à poser, un peu comme Simon tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dérangées par le fait que je prenne des photos de cette rencontre? Je peux comprendre tout à fait.
C'est pour
les archiver, éventuellement communiquer s'il y a d'autres temps de rencontres comme ça, de pouvoir avoir une photo à fournir à des médias, ce genre de choses.
Ok, moi, tout le monde.
D'accord. Okay.
Moi c'est Pierre, du coup alors je suis adhérent et bénévole au Jardin Moderne. Alors je connais rien du coup, je débarque un peu, mais j'étais animateur numérique auparavant, et donc voilà, tout ce qui est logiciel libre, c'est quelque chose qui me parle. Et donc, appliqué aux musiques actuelles, là, j'avoue que je connais rien. Et donc, voilà, j'ai envie de voir ce qui se dit. Voilà, c'est de la curiosité. Un peu plus large, quoi. Ouais.
Alors, moi, c'est Mine. Je teste très récemment de faire de la musique expérimentale de la MAO. J'ai déjà enregistré des trucs et j'ai été beaucoup sous Linux depuis récemment, à cause de l'achat d'ordinateur qui galère à être sous Linux. Et du coup, j'ai entendu que des gens qui me disaient « Ah, c'est la galère de tous les logiciels, en général du média sous Linux. » Et du coup, je ne me suis même pas renseignée. Et puis une semaine après, j'ai vu qu'il y avait ça. Je me suis dit « Ah bah, ça se trouve, en fait, c'est pas si compliqué. » Ou c'est peut-être très bien. Donc pour l'instant, je n'y connais rien. Mais voilà, du coup, je me suis renseignée par moi-même plutôt qu'écouter des gens qui disent que ça marche pas.
Bonjour, moi c'est Laurent, je suis avec un groupe qui se trouve là, on fait partie d'un Fab Lab, donc je suis novice, hein, mais je suis plasticien et ça m'intéresse beaucoup le son, de pouvoir bosser le son et les logiciels libres, ça me parle également, c'est pour voir ça fait Mac, Windows, même, je trouve ça très bien. Voilà. Donc je suis ici pour avoir des informations. Des infos, des. Ouais. Et savoir comment ça fonctionne dans une association également. Ouais.
Bon, ben, moi, c'est Martine et je suis dans le même cas que Laurent. Par curiosité, ça m'intéresse de voir ce qu'on peut en faire et comment ça fonctionne et vos intérêts aussi par rapport à ça. Je trouve ça bien que ça soit en parallèle avec quelque chose qui soit commercial et qui soit toujours consommation, donc ça m'intéresse dans ce sens-là.
Ok, ben moi je m'appelle Pierre, donc Pierre 3, bonsoir, et puis je viens de Quimper, où je fais partie d'une association qui s'appelle Les Portes Logiques, où on essaie de développer une culture commune du numérique à travers différentes actions, comme des ateliers qui publient de création en général, enfin, liés à des pratiques de création non radicales ou de la formation professionnelle. Et avant ça, je suis le fondateur de CodeLab, qui est un forum de discussion sur les utilisations créatives de la technologie, où on parle pas mal de musique et de graphisme, en particulier avec des langages de programmation ou des logiciels libres. Ou les deux en même temps, aussi des fois. Et puis alors, je fais des petites installations, moi, avec des Raspberry Pi, Arduino, Data, des trucs comme ça.
Moi, c'est
je suis très curieux de savoir, d'en savoir plus sur l'expérience du jardin moderne, que je pense qu'il n'est pas si commun que ça, loin de là. Et pour faire partie d'une autre association de musiques actuelles à Quimper, je pense que c'est pas si simple d'amener cet univers-là dans la musique. Donc, j'ai très hâte de savoir comment vous avez réussi tout ça.
Ce que je n'ai pas trop dit aussi, Guillaume l'a un peu plus dit, mais dans l'introduction, c'est que ça qu'on en a un petit peu chier quand même. Je ne voulais pas trop dire là-dessus.
Mais on l'avait deviné en pointillé.
Mais quoi voilà. Mais finalement, mais tout fonctionne bien et on enregistre des groupes et ça se passe nickel.
Moi, c'est Daniel. J'ai arrivé à Rennes en 2016. Je suis d'Espagne. Et j'ai fini ma licence musique à Rennes 2 en technologie numérique. Et puis, je suis intéressé par le patch Pure Data qu'on a utilisé là à Rennes 2. Puis, je viens pour me mettre à jour un peu sur le monde de l'enregistrement. Surtout pour mieux faire à lui.
Ok. Je suis content d'être à la réunion des libristes anonymes. donc moi c'est Cyril, je suis co-animateur d'un atelier. Alors c'est pas un Fab Lab, contrairement à ce qu'a dit Laurent, c'est un Lab Art. C'est-à-dire qu'un Fab Lab va être plus généraliste, nous on va être vraiment axé sur le côté création collective numérique. Le collectif et le numérique sont importants. Mon parcours par rapport à Linux, ça fait un moment que je connais à titre perso. Je suis dans la problématique de comment introduire ça dans des structures déjà organisées qui sont totalement plus ou moins hermétiques à ces choses-là m'intéresse beaucoup. On a une discussion, par exemple, cet après-midi sur la compta, la thune que ça coûte de faire appel à des logiciels propriétaires. Ça relance en plusieurs milliers d'euros, là, clairement, pour une autre structure, la MJC. Du coup, effectivement, votre expérience, on en a besoin, pas que au niveau musical. Quoi d'autre? Mais à côté, je suis régisseur dans le spectacle vivant aussi. Et pareil, là, c'est un monde qui est encore assez hermétique à ces technologies-là. Il y a une personne ou deux, peut-être, sur Linux et Mao qui en parlent, qui servent de certains outils en régie. Mais sorti de là, quand on en parle à des collègues et tout ça, c'est vraiment très compliqué de sortir de Pro Tools, de sortir des outils habituels propriétaires. Il y a vraiment une frontière mentale qui est là. Parce que les outils en libre, du peu que j'ai vu pour l'instant, commencent à vraiment bien fonctionner. Quoi. Que ce soit avec ULC Plus en lumière ou Linux Show Player, c'est ça, je crois. En son, pour le théâtre, par exemple, c'est vraiment des outils qui marchent très très bien. Et qui n'ont pas à rougir d'autres outils propriétaires. Donc voilà, et l'autre question, enfin encore une troisième question, enfin interrogation, c'est voilà, tu parlais d'être consanguin, et c'est comment effectivement est-ce qu'on arrive à atteindre d'autres publics, à sortir de notre truc de geek acharné, barbu, etc. Voilà, comment passer. Réussir à s'ouvrir déjà et à ce que les gens puissent s'approprier ces questions-là aussi, ces technologies.
Catherine, je fais partie du LabArt, donc avec Martin et Cyril. Voilà, on parle de Linux à la maison, un peu beaucoup, et du coup, de passer aussi de l'ordinateur familial. Donc voilà, je suis là aussi par curiosité pour apprendre. Échanger et puis sortir de Microsoft et de toutes ces industries. Voir comment après on peut effectivement partager avec d'autres personnes. Enfin, les gens n'ont pas.
Et répondre la bonne parole.
C'est ça.
Et des mots contre la parole.
À Tréguin, pardon. Tréguin. C'est la MJC de Tréguin, donc juste à côté de Quimper, Concarneau, tout ça. Et on travaille un peu avec du coup les portes logiques, enfin on travaille.
On se fréquente.
On se fréquente.
C'est pour ça que vous êtes venus ensemble. Ouais, juste ce
c'est ça.
Bonsoir, moi c'est Elisa. Assez très va nous présenter tous les deux.
Moi c'est Cédric, du coup, donc nous on est bassiste, on utilise du Linux depuis, enfin moi depuis 20 ans. On est contributeur à GIMP, Xgap, Scribus, Blender, Godot, Debian. Donc on est fondamentalement investi, on a créé deux assos, donc l'association francophone des graphistes libres, Trace Manuel, qui a pour but d'écrire la documentation.
D'aider
à écrire la documentation sur des logiciels libres, uniquement, donc de la documentation libre, bien sûr. Avec une méthode un peu particulière de Booksprint, enfin, qui correspond un peu au hackathon et au game jam, enfin, tout ce genre-là. Et on a écrit quelques livres donc, sur Hardoop, Nata, Elacity, Gabini comme ça le son, même si nous-mêmes on n'est pas profond. Dans ce moment-là, voilà, on pense que. On voit que dans le graphisme, les logiciels libres ont percé largement, sauf chez les communicants. Mais je dirais tant pis pour eux. Donc, je pense que ça peut être largement la même chose pour la musique. Que chacune raison que souvent, ce qui ne vient pas, c'est par méconnaissance. Ils essaient de reproduire exactement ce qu'ils connaissent, alors que chaque logiciel est différent. Et donc, dans un petit apprentissage, dans un petit temps, on n'arrive pas. On est là aussi pour faire avancer ça et témoigner en fait de nos 20 ans d'efforts en graphisme qui maintenant payent largement. J'espère qu'on aura ça.
Bonsoir, moi je m'appelle Timothée, je suis venu avec Aïcharia.
Je suis infographiste et développeur de logiciels libres depuis bientôt une dizaine d'années. Et grand utilisateur de MAO depuis avant ça. Du coup, j'ai bien souffert quand je suis passé sur Linux de voir toute la méthode de travail que j'avais sur Windows, des logiciels tout en un, ça n'existait pas. Du coup, il y avait moyen de faire des choses, mais c'était très compliqué. Du coup, j'ai pu voir l'évolution avec le temps, et maintenant, j'en suis 2-3 ans à un stade où je retrouve autant de flexibilité que ce que j'avais sur Windows avant, voire avec des possibilités en plus, justement, fournies par tout l'écosystème Linux, qui du coup devient un avantage. Et du coup, je suis venu pour voir un peu les différentes. Exemple de workflow que peuvent avoir les autres personnes qui utilisent Linux pour la MAO. Parce que je pense que justement, dans le cadre de la table ronde, si la question est de développer l'utilisation par le grand public du logiciel libre, c'est bien d'avoir commencé par avoir des cas simples de workflow qui fonctionnent bien, qui soient équivalents à ce que retrouvent les personnes justement sur les plateformes propriétaires plutôt que. Parce que, bien évidemment, il y a tout ce qui est le live coding, des choses comme ça, qui sont très très intéressantes, mais c'est pas avec ça qu'on va attirer le grand public. Donc c'est bien d'arriver à trouver des exemples très simples qui permettent aux gens de s'y mettre et après de découvrir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, voilà. Je suis curieux d'entendre les différents retours d'expérience.
Hi, I'm Aish. Sorry for my English, because I'm not confident in it. To talk in French, I was using free software as a tool to develop a women hackers community in India. I'm from India, and so I came here to see more people interested in free software and to try to understand French.
Bonsoir, je suis Flore. Je viens ici en nom d'initié parce que c'est pour découvrir aussi, j'ai envie de voir ce que c'est. Il y a une grande partie de ma famille qui est musicienne de toute façon, alors à chaque fois quand je suis là en spectatrice, j'ai envie de participer, je participe avec ma voix quelquefois, mais bon, j'ai envie de participer avec les instruments. Ils me donnent de temps en temps la guitare ou la batterie, mais c'est tout sans plus. Les cymbales, quoi. Et là, avec la MAO, mon beau-frère, un de mes beaux-frères, ça utilise beaucoup. Et j'aimerais bien. Il m'a montré un petit peu, mais c'était du chinois pratiquement pour moi. Donc j'aimerais bien pouvoir participer quand je les suis, quoi. Voilà. Alors c'est pour la découverte, surtout ce soir. J'aimerais bien. Voilà. J'ai découvert le jardin moderne par le C2I de Saint-Grégoire. C'est pour ça que j'ai contacté M. Simon Guillot par mail. Voilà.
Monsieur. Je ne sais pas si on a le droit de l'appeler monsieur. Hein.
C'est la première fois que je le vois alors. Je m'appelle monsieur.
Je m'appelle monsieur aussi. Monsieur. D'accord. Tout le monde appelle monsieur ce soir. Ouais,
Bonsoir, moi c'est Olivier, j'ai été prof de musique en école associative pendant 10 ans, donc batterie, percussion, atelier d'impro, atelier rock, tout ça. J'ai commencé à faire un peu de MAO sous Linux, ça devait être vers 2005, pour enregistrer les élèves, tout ça, qu'ils aient un petit truc à ramener chez eux, à montrer tata aux copains et tout ça. Puis je me suis fait appeler par le site qui s'appelle Linux MAO dont je suis administrateur. Ensuite, je suis parti, j'ai fait 3 ans en Australie où j'ai été chargé de développement de jeunesse en mairie, donc un truc un peu pompeux, officiel, tout ça. Et puis en revenant, j'avais pas grand chose à faire, du coup j'ai commencé à développer une distribution qui s'appelle Libradic, qui est un gros focus sur les musiciens, mais bon, pas que, qui est spécialisé pour tout ce qui est production audio, avec une tentative d'ouverture vers les métiers de la régie, parce que c'est aussi un monde que je fréquente beaucoup, principalement du fait d'un projet que j'ai dans une MJC où on fait du spectacle de rue avec des gamins et des ados. Et que j'aime bien les régisseurs souvent, sauf quand ils gueulent. Et pourquoi je suis venu? Parce que Monsieur Simon m'a contacté, que ça me faisait plaisir de rencontrer des gens pour la première fois, d'en revoir que j'avais déjà croisé de temps en temps, puis de mettre des visages sur ce monde virtuel qu'est l'Internet, où on oublie un peu souvent l'humain qui est derrière, donc ça fait plaisir de rencontrer des gens.
Et on n'a pas encore dansé.
Par exemple, Elisa, avec qui on avait été en contact, ça donne bien il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Parce que j'avais fait une traduction du manuel d'Ardour pour Floss Manual. Donc ça fait juste plaisir de rencontrer les humains qui sont derrière les pseudos et qu'on croise souvent de façon virtuelle. Parce que c'est un des trucs qui me plaît bien dans le logiciel libre, c'est de remettre un peu de l'humain là-dedans et pas être juste sur un système de production qui est juste là pour vendre des logiciels et acheter des logiciels et revendre des logiciels et tout ça. Ça reste des outils. Voilà, voilà. Et merci au Jardin Moderne d'organiser tout ça, de nous accueillir, c'est super.
Merci grand nombre. Donc moi je m'appelle Erwan, je suis plombier de l'internet et utilisateur de logiciels libres depuis plus de 20 ans en fait. Je suis contributeur plus ou moins actif sur Linux MA Opera et Librasi aussi d'ailleurs depuis quelques mois. Je fais de la musique, je suis très marqué années 80, j'aime beaucoup les synthés qui sont dégueulasses, analogiques, etc. J'aime bien ce genre de trucs. Et les bricoles, donc j'aime bien jouer avec ça. Donc j'essaie de faire de la musique, pour me marrer quoi. Et si je suis venu ici, en fait, c'est pour rencontrer des gens en vrai. Étant de la région rennaise, je voudrais bien rencontrer des gens avec qui me marrer un peu, quoi. Plutôt que d'être dans mon studio, comme un guignol, tout ça.
Voilà.
On peut partir, c'est bon ?
On peut partir, c'est bon.
Au revoir, ciao !
C'était bien, hein ?
Au jardin moderne particulièrement. Ah oui, on peut commencer par là. Oui, complètement. Comment ça s'est lancé du coup, c'était un choix. Et après, c'était un peu aux personnes. Ça s'est développé. Et puis, comment ça a été accueilli par les personnes au début. Par les salariés, c'est un relais, ça s'est bien passé. D'une façon plus générale, déjà, ouais. Le Linux, ouais. Le logiciel libre.
En fait, c'est arrivé, effectivement, comme je disais, par l'idée d'équiper le nouveau studio en libre.
Pourquoi ?
Ouais.
Pourquoi pas ?
Non, là, c'est toi qui a eu la...
Faut être simple, quand même. Faut être un peu calme.
C'était moins cher.
Ouais. C'était gratos, il n'y avait pas de crack à passer. Ouais,
tu semblais...
Il y avait des cracks.
Ouais. Des cracks.
Ah, des cracks.
Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais je vais donner les miennes. Ici, c'est un lieu. Le bâtiment, le site appartient à la ville. Il a été confié à l'association il y a maintenant 20 ans. C'est une association qui s'est créée spontanément. Nous, on dit initiative citoyenne. Mais qui en 20 ans a bien grandi, donc l'association s'est d'une part professionnalisée, il y a une embauche, deux embauches, etc. Puis aujourd'hui on est 13 salariés, et il y a à peu près 800-900 adhérents suivant les périodes de l'année. Et l'association elle s'est structurée, elle s'est mise à dialoguer aussi avec la ville de Rennes, la région Bretagne, le département et le ministère de la Culture aussi, etc. Et donc on est dans cet équilibre un peu particulier de... On est une association, bon, on relève du droit privé, juridiquement parlant, on est autonome, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, mais on occupe un bâtiment qui appartient à la ville. On a, pour la moitié de notre budget, est alimenté par des subventions, donc c'est des longues négociations avec chacun des partenaires, etc. Donc on est plus dans l'underground. Et on dit, on a l'habitude de dire aussi qu'on n'est pas une institution culturelle, dans la mesure où on reste fragile. Par exemple, cette année, la 2018, on fait moins 25 000 euros. On vient de faire un prêt à la banque pour pouvoir payer les salaires, etc. On reste dans une sorte de précarité, mais on est professionnalisé et puis on n'est pas ignoré des politiques. On est dans un entre-deux. Le projet, il s'adresse à des musiciens. La fonction première, l'activité principale, c'est les locaux de répétition. Donc les musiciens adhèrent à l'asso, c'est la condition pour utiliser les locaux. Puis après, il y a un tarif modique pour utiliser les locaux de répétition. Et dans les locaux de répétition, il y a une solo, une batterie, etc. Au fil du développement de l'asso, on est devenu organisme de formation pour former les personnes qui ont besoin ou envie de se former. On est devenu bar, restaurant. Il y a un centre ressources pour aider les personnes qui ont des projets en musique, j'ai un groupe et je veux avancer, je sais pas trop comment faire, ou je viens de racheter un fonds de commerce, je fais un café, j'aimerais bien faire des concerts, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, etc., etc. Ça, c'est la fonction ressources. Il y a le studio d'enregistrement, Simon en a parlé. Et puis, on organise des concerts, mais surtout, on accueille des associations, d'autres associations qui organisent des concerts chez nous. Le projet, ça c'est les activités, il repose aussi sur des valeurs de solidarité, aussi une envie d'aller vers des rapports équitables entre les personnes. On a un certain nombre de règles qu'on s'est fixées nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est pas les salariés, alors, c'est les salariés et les adhérents. Par exemple, il y a un ratio limité entre le salaire le plus haut et le plus bas. De 2, ça va de 1 à 2, maximum, y compris quand on embauche des personnes de manière occasionnelle, comme des formateurs, des ingé-sons ou autres. Il y a aussi le fait de, si on a d'autres assos autour de nous, dans la merde, on essaie d'aider, etc. Enfin bref, en clair, on essaie de défendre un modèle qui soit un modèle alternatif au modèle concurrentiel, où tout nous pousse, surtout dans la musique, hein. Bon, la musique, c'est l'industrie de la musique déteint énormément sur les lieux de musique en France. Même les lieux qui sont gérés par des associations à but non lucratif, on est tous hyper influencés par ce modèle concurrentiel et lucratif. Ça se voit dans la manière dont on accompagne les groupes. La plupart de nos collègues lieux de musique actuels, quand ils accompagnent un groupe de musique, c'est dans la perspective de l'insérer dans le marché. Donc on l'emmène au Printemps de Bourges, ceci, cela. On est content quand on parle du groupe dans les magazines reconnus, etc., etc. Et nous, on a eu envie de défendre un autre modèle, donc on essaie de décliner ce modèle un petit peu partout. Par exemple, il y a un restaurant, on aimerait bien qu'il soit 100% bio, 100% local, mais on a envie aussi de rendre l'assiette pas trop chère. Et donc, c'est pas 100% bio, pas 100% local. Des fois, on peut, des fois, on peut pas, parce qu'on est dans cette espèce de compromis entre on veut que ça fonctionne, on veut pouvoir payer des salaires, on veut être en dialogue avec la ville, la région, le département, etc. On veut vendre des assiettes pas trop chères et on veut aussi qu'il y ait de la qualité dedans. Et la décision de passer le studio en logiciel libre, ça repose là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est contre le modèle économique que proposent Microsoft et les autres. Donc on va essayer autre chose. Et c'est pareil pour l'équipe. À un moment donné, on est contre les modèles économiques proposés, et même les modèles, je dirais, éthiques, c'est pas seulement les modèles économiques, proposés par Microsoft et autres, donc on va essayer, nous, de s'y mettre, quoi. Après, il y a aussi un petit jeu d'entreprise, entreprise démocratique et à but non lucratif, mais entreprise quand même, qui est, moi par exemple, je suis directeur, l'idée, elle est née de moi, elle est discutée avec l'équipe, mais forcément, il y a des gens à l'aise avec les ordi, des gens pas du tout à l'aise. Et donc, quand on dit, on va passer sur Ubuntu, vous allez quitter un certain nombre de logiciels que vous connaissez, pour des logiciels que vous connaissez pas, il y a des gens dans l'équipe pour qui c'est plus un problème que d'autres. Heureusement, il n'y a pas qu'une équipe salariée, il y a aussi des adhérents. Et dans nos adhérents, il y a des élus, c'est nos dirigeants de l'école, les membres du conseil d'administration, Et là, on a eu du bol parce qu'il y en a deux, dont le président, qui sont des informaticiens de métier, qui sont assez militants, pas dans leur boulot d'ailleurs, plutôt sur leur temps de loisir. Alors que nous, on essaie de concilier les deux, c'est un petit peu ça, le truc du compromis, mais ils nous ont vachement aidés. Ils nous ont vachement aidés, et donc ce sont nos dirigeants bénévoles, nos adhérents élus pour valider ou prendre les décisions de la ville d'Assaut qui nous ont dit ok, nous on peut vous accompagner à passer sur Ubuntu dans un premier temps, on va vous aider. Par exemple, on n'avait pas le logiciel de gestion de la formation, inscrire les stagiaires, les prises en charge, etc. Et donc c'est le président qui a développé notre logiciel de gestion de la formation en libre, dont il a mis les codes sources en ligne aussi après. C'est aussi notre président qui nous a développé les pilotes d'impression pour gérer notre copieur, parce que sinon on n'y arrivait pas. Et après, c'est des envies personnelles. C'est-à-dire que bah, c'est des membres salariés de l'équipe qui se sont dit « Ah bah tiens, moi j'ai trouvé Linux et MAO, je vais poser la question. » C'est sur Linux et MAO, en cherchant des compétences pour nous aider à monter un studio d'enregistrement, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens à 140 bornes qui pouvaient le faire. Puis on s'est rencontrés, on a discuté, et puis on s'est dit que c'était possible. En fait, ça repose sur des valeurs que l'association a envie de défendre. Et pour nous, passer des logiciels propriétaires aux logiciels libres, c'est comme essayer d'avoir un maximum de nourriture bio dans l'assiette, mais on n'arrive pas à être à 100%. Par exemple, aujourd'hui, il y a une personne dans l'équipe qui est sous Windows, c'est notre comptable, parce qu'on n'a pas trouvé de logiciel de paye qui fonctionnait en libre, parce que la paye c'est compliqué, il y a des tas de pourcentages qui changent tous les ans, parce que c'est lié aussi à la rémunération, au salaire que touchent les personnes tous les mois. Donc s'il y a une connerie là-dessus, c'est un peu plus compliqué que s'il y a une connerie sur un enregistrement en studio, enfin bref. Donc on essaye de tendre vers un truc qui correspond aux valeurs qu'on a posées, puis d'aller calmement, quoi, en se disant on n'est pas une asso d'informaticiens, donc on n'est pas capable de dépatouiller tous les problèmes qu'on rencontre, on doit faire appel aux autres. Si on fait appel aux autres, il faut bien qu'on soit capable aussi de nous, à un moment donné, leur rendre service. On est en contrepartie, et donc on se construit comme ça.
Mais c'est bien d'avoir fait le pas déjà. Tu entends beaucoup des discours comme ça, parallèles de personnes, mais c'est un confort aussi. Les gens, c'est pour qui c'est vraiment juste un outil, il faut réapprendre, mais c'est pas ça.
Il y a des sujets très simples, par exemple dans l'équipe, il n'y a plus aucun problème. De toute façon, Ubuntu, pour envoyer des mails, aller sur Internet et utiliser un tableur et un traitement texte, ça pose aucun problème. C'est le jour où tu dois absolument sortir 100 copies parce qu'il y a quelqu'un qui te demande ses copies et que ça conditionne le versement d'une subvention ou ceci, cela, et que là, ça marche pas, c'est là où tu flippes.
Pour revenir à la question aussi, le studio, on l'a inauguré en avril 2015, si je dis pas de bêtises. On est passé donc toute l'équipe sur Linux après en décembre 2015. Moi, je venais d'arriver au jardin à ce moment-là. Pour revenir sur la réception des collègues, il y a eu différents types de réactions. Il y avait des personnes du coup qui utilisaient déjà les logiciels libres chez eux et qui étaient déjà sur Ubuntu chez eux, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Moi, je faisais plutôt partie des personnes qui étaient un peu curieuses mais qui connaissaient absolument pas Ubuntu à ce moment-là. Et il y a aussi une grosse partie de l'équipe qui n'est pas du tout qui a pas du tout d'affinité avec l'informatique. Et forcément, dès qu'on change les habitudes de quelqu'un, la réception elle est plutôt mauvaise, quoi. Immédiatement. Après, ça se lisse sur le temps. Et on a eu beaucoup de soucis au début qui n'étaient pas vraiment liés au libre en soi, mais plutôt sur un souci de hardware. On avait des petits nucs qui tournaient très mal, on va dire. Le parc informatique s'est peu à peu renouvelé. Et aujourd'hui, on a très peu de soucis.
il y a deux trois interventions qui comment dire sont nécessaires de temps en temps, mais c'est vraiment des interventions mineures de mots de passe oubliés, de choses comme ça. Là c'est vraiment plutôt de l'erreur de personne que de l'erreur d'outils, on va dire. Même si ça arrive, là je prends un exemple très concret, hein, qu'il y ait des mises à jour parfois qui fassent déconner certains plugins, ou je pense à Lightning récemment, donc, l'agenda de Thunderbird qui n'était plus compatible, on peut lui trouver une solution rapidement. Mais...
Ce qui arrive jamais sur d'autres systèmes d'exploitation.
Absolument jamais. Mais en termes de ce que j'ai trouvé hyper intéressant, mon ressenti vis-à-vis de cette expérience-là, c'est que contrairement à un Windows où on appuie sur un bouton et on prie, et on a une chance sur trois pour que ça, la réparation fonctionne, j'ai trouvé énormément de données en ligne. Je me suis renseigné et je me suis pris sur le fait à prendre du plaisir en fait, à m'enseigner sur les différents types de commandes, sur comment essayer de résoudre ça, comment essayer de pimper aussi un petit peu son ordi. C'est assez plaisant de modifier son interface et de, je sais pas, d'ajouter des icônes de Jean-Claude Van Damme un peu partout. C'est genre de... et au fur et à mesure en fait, de cette curiosité-là, que ce soit de moi ou d'autres collègues, on a réussi à déterminer des procédures pour résoudre des problèmes, et à force, ça devient des automatismes. Aujourd'hui, j'entends assez peu de collègues râler sur...
C'est accepté avec les 3 ans de recul. Là.
C'est ça, ça se lisse sur le temps. Le plus dur, c'était vraiment le début où le changement d'habitude s'est un petit peu confondu avec des soucis matériels.
Après, il y a aussi l'état d'esprit de l'association.
Ouais, moi, je trouve ça assez incroyable, en fait, ce que vous racontez. Enfin, j'avais pas réagi, vous avez passé toutes les minutes.
Moi non plus, j'avais pas capté.
Mais pour avoir observé ce genre de choses dans d'autres lieux pas mal de fois, soit il y a des gens qui sont méga motivés, qui sont prêts à prendre tous les pains possibles. Imaginez qu'il serait arrivé quoi qu'il en soit. Enfin, je veux dire, finalement, c'est la question, c'est pas de passer sous Linux ou quoi. Hein. La question, c'est de changer. Mmh. Et donc, du coup, à partir de là, on prend un risque. Mais là, la façon dont vous le racontez, que vous avez rencontré des problèmes, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas partants, que vous avez quand même réussi à la fin. Enfin, je suis vraiment, vraiment super impressionné. Je trouve ça veut dire qu'il y a quand même une motivation d'équipe et une structure là qui est quand même assez importante. Et, enfin, voilà.
Je pense que les utilisateurs, puis les propriétaires, ils ont l'illusion qu'en achetant une licence, ils ont une garantie derrière, en fait. Et je pense que c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, j'ai eu l'expérience il y a pas mal de temps, où, en tant que graphiste, je gardais toujours une licence Adobe sur un Mac pour pouvoir convertir les fichiers de mes clients et puis les repasser dans le build, etc. Parce que l'import n'est pas parfait. Et puis un jour, Photoshop il se met à plus marcher. J'appelle Adobe, il me dit si tu penses à notre logiciel, pense au logiciel, Acrobat, ça marche pas non plus. Je passe un temps fou au téléphone avec eux, il y a un truc à rendre au client, et puis au final, ils ne savent pas quoi faire. Je leur dis vous allez me le débugger ou pas? Il me dit non, on ne va pas vous le débugger. Je dis, fais quoi? Voilà quoi, je pense que la question se pose même plus. J'ai plus envie de me retrouver à 5 minutes de devoir envoyer à l'imprimeur un truc et de dire mon logiciel il ne tombe pas.
Ceci dit, tu pourrais être à 5 minutes avec un logiciel libre et puis ça sera 5 minutes quand même.
Ouais, mais j'aurais pas déboursé 7000 euros. Croyant que j'ai garanti derrière.
Non, mais c'est vrai.
Le truc en fait.
Et du coup, je me disais juste parce que quand tu t'es présenté tout à l'heure, tu disais que tu savais pas du tout ce qu'était un logiciel libre, peut-être faut qu'on repasse juste. Parce que là, on est quand même rentré un peu dans le
vent, mais c'est vrai.
Sans rien.
Juste pour le dire assez simplement, un logiciel libre se définit par 4 libertés que le développeur du logiciel décide de donner aux utilisateurs du logiciel. Ça fait longtemps que je n'ai pas révisé ça, donc j'ai peut-être mis des mais... La première, c'est que en fait, tu peux faire ce que tu veux avec ce logiciel. On ne va pas cantonner son usage ni à une machine, ni à un objectif donné. Donc tu peux utiliser ce logiciel sur plusieurs machines, tu peux l'utiliser pour faire du militantisme proactif comme le jardin moderne ou du terrorisme ou ce que tu veux, c'est pas le problème du développeur.
Ce qui illustre ça, c'est que dans la plupart des logiciels non libres, tu signes un contrat d'utilisation quand tu l'installes. C'est vraiment très anecdotique, mais en fait, si
tu fais attention quand tu installes un logiciel. À chaque fois, tu as un truc qui s'appelle le CLUF, le contrat d'usage final, que tu signes, tu coches un truc. J'ai bien lu, donc tu ne lis pas. Et tu valides. Et ça dit que tu n'as pas le droit de l'utiliser de telle manière, telle manière. Tu n'as pas le droit de regarder comment il est fait.
Le contrat typique, c'est les versions étudiants à moins cher. On a le droit de l'utiliser, c'est pas cher. Donc, ça, il y a beaucoup d'étudiants qui achètent des trucs comme ça. Mais en même temps, on a le droit de l'utiliser que dans le cadre des études. Et donc, si tu es musicien, par exemple, tu achètes un logiciel et tu l'utilises que dans le cadre de tes études, c'est-à-dire si tu veux faire un concert avec, tu ne peux pas faire. Donc, ça, c'est la licence, même si tu as payé.
Ça, c'est ta première liberté. La seconde liberté, c'est que tu dois pouvoir. Alors, je suis peut-être dans le désordre, hein, vous me reprenez parce que là, voilà. Seconde liberté, c'est que tu peux modifier ce logiciel. Alors, ça, c'est un peu une liberté théorique parce qu'il faut pouvoir le faire techniquement, pour en avoir les aptitudes. Mais là, on t'a donné le droit de le faire. D'accord, tu sais peut-être pas faire du code ou quoi, mais peut-être, comme le jardin moderne, t'as un administrateur qui sait faire du code et qui va pouvoir modifier le logiciel pour qu'il s'adapte à tes besoins, et pas que toi tu adaptes tes besoins au logiciel. Ce truc-là, c'est assez fondamental, en particulier en MAO, parce qu'en MAO, on a plutôt une tendance à dire « j'ai un pote qui a un live craqué qui marche bien, donc je vais installer live, et donc à partir de là, je vais voir ce que je peux faire avec live. » Et bon, c'est une logique, mais... Si tu devais construire une maison et que tu as un marteau et des vis, a priori ça va pas forcément marcher. Tu te dirais pas, tiens, j'ai un marteau donc, et des vis et donc, je vais taper sur les vis avec le marteau. Bah, peut-être que t'as peut-être une lime en plus, donc si tu limes la vis avant, tu seras moins dur. Enfin voilà, je pense qu'on peut dire que ça c'est en fait ce truc là te permet de pas commencer par l'outil mais de commencer par le problème et du coup de prendre un outil qui est adapté au problème. Potentiellement, s'il existe, parce que c'est pas sûr qu'il existe, enfin, c'est pas le monde des bisounours non plus, le logiciel. Mais... voilà, tu peux modifier l'outil pour qu'il s'adapte à tes besoins. Pour ça, tu dois pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle le code source. Donc, le code source, c'est le code qui a été écrit par la personne qui développe le logiciel. Parce qu'en fait, quand tu récupères un logiciel, alors je sais pas trop ce que tu utilises, mais admettons que tu utilises Ableton Live ou Cubase ou quoi, en fait, tu récupères directement un exécutable, donc quelque chose sur lequel tu peux cliquer, ça se lance. Et ça fonctionne, ou pas d'ailleurs, mais ça. Enfin, admettons que ça fonctionne, c'est quand même, la plupart du temps c'est le cas. Mais tu sais pas pourquoi ça fonctionne ni comment en fait. Et tu peux pas remonter à ce qui a permis que ça fonctionne. Cubase ne révèle pas ses sources en fait. Ou Pro Tools, ou Ableton Live, ou quoi. Là, le logiciel libre, il révèle ses sources, ce qui fait que bah, effectivement tu peux le modifier, ce qui fait aussi que tu peux vérifier ce qu'il fait. Alors, toujours moyennant tes compétences pour ça, mais assez basiquement, ça veut dire qu'a priori, c'est difficile de cacher dans un logiciel libre des choses qui, par exemple, récupéreraient tes données personnelles sans que tu le saches. Là, je sors un peu du sujet, mais c'est ce genre de choses-là. J'en ai dit trois, là, c'est ça ?
Oui, le fameux open source.
Voilà, open source, c'est pour dire les sources sont libres. Je sais plus trop où j'en suis. Tu as le droit de redistribuer ce logiciel. Voilà, ça, c'est la troisième. Tu as le droit de redistribuer ce logiciel. Voilà, selon les termes de cette licence-là. Et le quatrième, c'est que tu as le droit de redistribuer les modifications que tu as faites du logiciel. Toi ou quelqu'un. Donc voilà, c'est les quatre libertés qu'on te donne. Il y a souvent un truc qui... Enfin, une analogie qui est faite avec les recettes de cuisine. En gros, un logiciel non libre, c'est une recette de cuisine que tu as le droit de faire dans une cuisine donnée, dans une taille de casserole donnée, et de marque donnée d'ailleurs, potentiellement, et pour un nombre de personnes données. Et tu dois utiliser tous les ingrédients, et pas d'autres, mais pas moins. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ta recette propriétaire. On t'invite tes voisins, déjà non, en fait t'invites pas tes voisins, ça c'est... Et si par exemple, je sais pas, finalement t'es allergique au gluten, tu le découvres après, bah il y a du gluten. C'est comme ça. Une recette libre, c'est une recette où tu peux changer la casserole parce qu'elle est usée, déjà. Tu peux la faire dans la cuisine de tes voisins parce que finalement t'as été là-bas, tu peux changer les proportions. Mais c'est très con, mais en fait, finalement t'es 4 et t'es pas 2, parce que t'as eu des enfants ou j'en sais rien, c'est quand même pas mal. Tu peux changer les proportions. Et puis tu vas chez tes voisins, tu fais cette recette, et donc voilà, ils la trouvent très bonne, donc ils la refont, mais eux ils sont allergiques au gluten justement, et donc ils enlèvent le gluten, ils remplacent par un autre truc, et c'est encore meilleur, et en fait, donc ils ont le droit de modifier, mais en plus ils ont le droit aussi de te dire, regarde, c'est encore meilleur, et de t'ordonner cette modification. Voilà, c'est un peu les...
Mais je pense qu'on a la même analogie avec un instrument de musique, c'est-à-dire que tu vas acheter par exemple une guitare, je sais pas, un peu grosse, partout, ta guitare, t'as le droit d'en faire ce que tu veux, ça, tu peux jouer dans la rue, tu peux jouer n'importe quel type de musique, on ne dit pas non, mais... Tu prends la licence Photoshop, typiquement, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de faire. C'est marqué dedans. Tu
n'as pas le droit de gagner des billets de 500 euros.
Ça, c'est quand même assez. Tu n'as pas le droit
de faire des affiches terroristes. Après, tu as ta guitare, tu peux changer le micro. Si elle est encore de nylon, tu peux les mettre avec des cordes métalliques, etc.
Tu peux la prêter, tu peux la pimper, tu peux la donner.
Tu as le droit de la refiler à quelqu'un d'autre si, si tu veux.
C'est sur le
ciel. Pourquoi accepter en informatique quelque chose qu'on n'accepterait pas en fait avec ton avis courant, n'importe quel autre type d'outil?
En fait, en propriétaire, je pense qu'on achète le droit d'utiliser le logiciel, ça n'est pas le logiciel.
Non, non, mais c'est un droit, c'est sûr. Ça, après, ça va peut-être un peu.
Je trouve que c'est important de faire ce rappel. Et à mon avis, le fait qu'on accepte ça, c'est pour des raisons justement de complexité technologique. C'est-à-dire qu'en gros, on achète un vélo, on n'accepterait pas que le vendeur de vélo nous dise « t'as pas le droit de rajouter de garde-boue, t'as pas le droit de mettre de lumière, ou alors si tu mets des lumières, tu peux mettre que des lumières dans cette marque-là ». Non, on achète le vélo, on fait ce qu'on veut avec, et ça nous semble logique. Parce que, à la rigueur, la technologie d'un vélo, et encore, c'est pas le cas de tout le monde, mais on la maîtrise à peu près, la plupart des gens savent changer la chambre à air ou remettre la chaîne quand elle est déraillée, et encore, pas tout le monde. Mais voilà, la technologie est quand même plus simple. Là, le niveau de technologie de l'informatique, donc c'est vrai pour les ordi, mais pour les téléphones aussi, c'est tellement élevé. Et moi, par exemple, j'ai souvent fantasmé sur le fait de savoir coder ou de comprendre le code et de pouvoir moi-même modifier un truc. Mais je dois reconnaître que j'ai un boulot où on ne me demande pas du tout de faire ça, d'une part, et qui m'occupe une partie du temps. Et sur mon temps de travail, j'aime bien faire de la musique, j'aime bien faire d'autres choses. Et en fait, je pourrais jamais rattraper, je pense.
Non. Impossible.
Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se spécialise tous sur.
Non, mais t'as une carte.
Oui, on a des centres d'intérêt. On a des centres d'intérêt différents. On se spécialise sur des choses, pas sur d'autres. Et nous, en tant que structure culturelle, on ne sera jamais une structure. Dédié au numérique ou à l'informatique, on est une asso de musique, on s'intéresse à ça, mais je pense que c'est la complexité de la technologie qui fait que nous, on n'a pas le temps de rentrer au cœur des trucs, d'où la nécessité de se rencontrer, se parler, voire de mettre en relation des gens compétents en informatique avec des gens compétents en musique, puis des gens compétents en PAO, et pour échanger aussi, et puis pour faire un petit peu force commune sur des sujets où on ne pourra pas tous être des instrumentistes experts, des informaticiens experts, des monteurs de structures juridiques type association experts, etc. etc. quoi.
Après, je suis d'accord, mais je ne suis pas si sûr que ça qu'il y ait vraiment une complexité technologique. Ouais. En fait, je pense que le truc, c'est qu'on l'a toujours présenté comme ça. Et ces constructions-là, elles sont complexes aussi.
Parce que la musique, c'est compliqué aussi. Hein.
Oui,
tu sais, de composer pour un organe,
pour moi, c'est la même complexité qu'un mécano.
Je dis pas que c'est plus compliqué, puis après j'arrête de parler parce que c'est mon défaut. Je dis pas que c'est plus compliqué, mais par exemple, en dehors de mon boulot, je suis musicien, mais j'apprends et je pratique la musique depuis que j'ai 12 ans. Et donc, aujourd'hui, j'en ai 42. Donc, si je me mets à faire de l'informatique, ça va quand même mettre quelques années avant que je puisse moi-même dépatouiller quelques logiciels ou essayer de comprendre une ligne de code et de l'améliorer, quoi.
Oui, mais c'est comme si tu commençais la musique à 42 ans. Tu peux dire la même chose.
Oui, oui.
Pour moi, la complexité de l'informatique est très fantasmée. C'est parce que c'est nouveau, qu'il y en a beaucoup qui... On a maintenant, il y a des générations qui arrivent, ils sont à fond dedans, etc. Mais il y a aussi beaucoup de générations où personne n'en avait rien à battre. Hein. Et donc, la culture, etc., n'est pas obligatoirement là pour tout le monde. La culture d'informatique. Et sinon, c'est très fantasmé. Hein. Enfin,
pour moi, la preuve que c'est pas très compliqué, c'est qu'il y en a partout.
Et que, en fait.
Mais pour faire, excuse-moi, juste parce que là, Guillaume, il présente le truc en disant qu'il faut devenir expert, justement. Je pense que. Le fait qu'on s'interdise ça, c'est peut-être cette construction mentale de c'est une technologie complexe, mais à la fin, toi, t'es informaticien, tu dois avoir une forme de technicité complexe là-dedans, mais en fait, l'usage de l'informatique qui est fait par tout un chacun, il a des degrés super différents, et je vois pas qu'on rentre dans l'idée que pour faire des logiciels libres, il faille particulièrement être talentueux informatiquement, enfin pour un réjouir, pour l'utiliser, pardon. enfin pas plus que pour d'autres en fait. C'est strictement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut être formé à ça, quoi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en auto-formation ou autre chose, mais le nœud central est là. Donc effectivement, si vous êtes habitué à utiliser Microsoft Word et que ça fait 15 ans que vous en faites, bah, le jour où vous allez changer, ouais, ça sera dur.
Je pense que l'avantage du livre aussi, c'est qu'on peut collaborer sans faire une bibliothèque.
Oui, bien sûr.
On peut avoir les bonnes idées, on peut avoir les bonnes réflexions sur l'évolution du produit, etc., mais sans rien connaître à comment ça va être fait derrière.
On peut écrire de la documentation.
Derrière, il y a une communauté. Si l'idée, bah, voilà, c'est un truc que tout le monde veut et que bah, il y a la communauté derrière. Les techniciens qui vont être capables de le faire.
Ou qui fait tripper juste le développeur, c'est parce qu'il y a aussi le rapport direct au développeur qui lui sait coder, que tu n'as pas dans le logiciel propriétaire ou très peu souvent. Quoi. Mmh. Là, tu es vraiment en ligne directe.
Pas pour les enjoliver non plus, ils ne sont pas tous super faciles.
Non, ce qui est chiant, c'est que c'est des humains, putain.
Non, c'est plus trop, mais ouais.
Ils ont leur petit truc, mais en tout cas, tu as la possibilité de discuter, tu as le canal de communication qui est déjà là. Quoi. Alors après, oui, t'en as qui seront mal levés le matin, t'en as un... il y a tout ça, puis c'est juste le réel, quoi. C'est le réel de la vie, de la vraie vie. Mais au moins, t'as le canal de communication qui est là. Puis après, moi, je voulais juste rebondir sur le côté... parce qu'il y a un côté... Il y a un côté image magique de l'informatique, que c'est un truc qu'il faut avoir fait plein d'études et tout ça. Ouais, ok. Moi, j'ai jamais fait de... Je ne sais pas coder. Pourtant, j'ai trouvé plein de moyens de contribuer différemment en écrivant de la doc, en faisant de la traduction. Alors, typiquement, la traduction, tu es dans les lignes de code parce que tu es obligé de rentrer dans comment il est fait le logiciel, mais c'est pas pour ça que je sais coder. Moi, je sais faire la traduction et discuter avec le mec qui, lui, je sais pas, vient de Tanzanie et qui parle pas français. Moi, je lui fais la traduction en français, puis lui, il va faire de ces trucs magiques d'informaticien que moi, je sais pas faire. Et bim, pourtant, il y aura une contribution alors que je ne sais pas coder. Et ça, c'est quand même vachement agréable, c'est qu'il y a un décloisonnement total entre utilisation et développement. Ça n'existe que dans le monde propriétaire, que dans le monde uniquement du pognon du logiciel. C'est cloisonné. Il y a les développeurs qui sont sous contrat, qui n'ont pas le droit qui ont un contrat de non-divulgation, tous les trucs-là qu'ils ont signés pour être payés par la boîte qui les embauche. Et dans le monde du logiciel libre, par contre, qui est... complètement d'accord avec ce qu'a dit Aurélien, c'est pas les bisounours, hein. faut pas rêver. Par contre, tout ça c'est décloisonné, il n'y a pas d'interdit a priori, quoi. Il n'y a pas d'interdit contractuel autre que aller contre les quatre libertés fondamentales du logiciel libre dont Aurélien a parlé. Voilà.
Est-ce que c'est pas ça, on en a discuté tout à l'heure aussi par table ronde, mais est-ce que c'est pas ça, pour revenir sur le côté usage, qui pourrait permettre aux gens d'assimiler plus facilement ces logiciels libres. Voilà, je vais prendre mon exemple à moi. On parle ça justement de il y a le logiciel, il y a apprendre le logiciel, mais aussi comprendre la culture du libre. Et moi, celle-ci, je la connaissais pas en fait. Je savais pas comment ça se passait, qu'il y avait des contributeurs, qu'on pouvait nous-mêmes contribuer ou autre. Et finalement, tu te retrouves malgré tout consommateur de tout ça. Et une fois que tu as compris que tu peux contribuer à ta manière, et filer la main et en retour de quelqu'un qui va, un développeur qui va t'aider à faire ci, faire ça pour ton propre projet, c'est peut-être un des éléments, enfin là je pose une question, mais c'est un des éléments qui peut vraiment
je pense qu'avant de éduquer les gens à la culture du livre, qui est une culture participative, associative, enfin, comme on peut avoir dans les courantes en fait, peu importe l'échange entre personnes sur le sujet qui nous réunissent, peu importe. Je pense que la frayeur, typiquement, nous, un intervenant sur une question de formation aussi, on a un intervenant qui est venu pour faire un cours de sound design, et puis j'y ai amené mes trucs, donc j'ai amené mon clavier Musi, c'est un clavier Yamaha, donc c'est pas un truc peu courant, on en trouve partout, et puis il n'arrive pas à le faire fonctionner sur son ordi avec Windows. Une demi-journée, il n'a toujours pas réussi à faire tout. Comment tu fais pour pas réussir à faire fonctionner un clavier MIDI, quoi, pour pas le brancher correctement sur ton ordi, c'est prévu pour ça, quoi. Puis t'as des pilotes en ligne, tout ça, moi je sors mon ordi, je branche le truc, ça marche direct. Donc des fois, les gens disent ah non, je prends mon Windows parce que ça va mieux marcher, et puis je ne veux pas y arriver avec ton truc, et puis au final, bah non, c'est l'inverse qui se passe. Ouais. Et donc, il y a vraiment une barrière, enfin, je sais pas d'où vient cette barrière, hein, évidemment, mais les gens se mettent à un mur en disant bah si j'ai jamais utilisé ça, c'est que c'est pas bon.
Ouais. Typiquement, j'ai un exemple un peu dans le même genre. J'ai acheté un vieux clavier joli par la cigarette et tout, un clavier maître parce que je ne sais pas du tout en faire, donc je me suis dit, je ne vais pas trop investir, j'achète un vieux de truc, et en fait, il s'avère que sous Mac, ils ont implémenté que les dernières normes MIDI, donc ce clavier-là n'a aucune chance de fonctionner sous les 5 dernières versions de Mac. Le seul moyen de faire fonctionner ce clavier-là, c'est de passer sous Ubuntu, où là, bah, on a la liberté d'installer ce qu'on veut, de faire fonctionner ce qu'on veut, des vieilleries qu'on sort du placard, elles fonctionneront toujours à partir du moment où y a des gens qui sont intéressés, fournissent des choses qui vont bien. Et ça, c'est vrai, c'est un gros avantage de ne pas être obligé de suivre obligatoirement le mouvement, entre guillemets, on peut, surtout en musique, enfin, parfois on n'est pas encore à l'époque où on sort les vieilleries informatiques, mais imaginons que on s'interdise aujourd'hui d'utiliser un orgamone parce que c'était il y a 50 ans, il faut passer au nouveau, quoi.
Bien sûr, mais déjà à l'époque, quand tu vois, la musique avec des Game Boy ou des Amstrad ou des Amiga.
Oui.
Et c'est même vachement classe d'avoir un Amiga.
Ouais, mais j'imagine que ces mecs-là, ils doivent bien galérer et ça m'étonnerait qu'ils soient sous le nouveau sommet.
Ouais,
ça soit bien.
Allez, Pierre,
en dehors des aspects éthiques du logiciel libre aussi, il y a le fait que le logiciel propriétaire apporte une relation de dépendance avec des conditions qui sont posées par le fournisseur. Donc il y a des inconvénients aussi à utiliser Windows ou macOS par exemple, sur ces mises à jour perpétuelles qui vont empêcher de faire fonctionner des logiciels d'avant, tout comme ça, que plein de gens ont pu expérimenter, et c'est un argument aussi en faveur du logiciel libre, puisque on l'a vécu, d'avoir un truc qui ne marche pas, parce que c'est pas la bonne version, il faudrait racheter une licence.
Même sur le matériel, souvent ça te tue le matériel, quoi, quand tu...
Oui, dans le cas de Mac en particulier, mais donc il y a des arguments contre le logiciel propriétaire aussi. Et tout à l'heure, vous disiez que vous racontiez comment vous étiez mis à Linux globalement, pour toutes les activités du jardin moderne. Mais vous avez rencontré des problèmes, mais vous avez aussi échappé à des problèmes. Mmh. Je pense en particulier à la vogue des logiciels qui rançonnent de ces dernières années, à ces formes de virus et tout comme ça. Pour ça, choisir un système d'exploitation comme Linux, ça protège quand même tout ça.
Ouais.
Mais en tant que SO, on a bien ce souvenir-là.
Enfin... Sur le ransomware, je ne suis pas trop d'accord. Hein. J'en ai vu qu'on a eu des problèmes quand même. Donc c'est pas parce que tu es sur Linux ou sur du logiciel libre que tu ne peux pas te faire plomber, quoi.